Les balados OIC, un projet de l'Observatoire de l'imaginaire contemporain, en collaboration avec Figura, vous propose un épisode de la série Imaginaire et culture pop.
Chers auditeurs et auditrices, chers popophiles, popophages, popologues, amateurs de la culture populaire, bienvenue donc dans ce nouvel épisode de notre podcast Pop en Stock, dévolu à l'étude de la culture populaire. Et nous avons l'immense plaisir, la grande honneur de recevoir Massimo Introbigni, qui est un des plus grands spécialistes mondiaux sur les phénomènes de la nouvelle religiosité qui, on le sait, ont eu une grande importance dans la culture populaire, au moins depuis les années 60, mais on peut dire que même bien avant, avec le mouvement théosophique notamment, et son immense influence sur des domaines aussi variés que, évidemment, la littérature fantastique, mais aussi la littérature de science-fiction, etc., etc. La théosophie a été un des socles importants de ces transformations. Donc, merci beaucoup, Massimo, d'avoir accepté cet entretien qui va être un peu un parcours de votre carrière et de votre intérêt pour ces aspects-là. Merci donc d'être avec nous. Et donc, c'est une partie de votre activité, puisqu'en fait, vous êtes quelqu'un immensément actif, j'imagine d'une très grande énergie, puisque vous avez vraiment, comme on dit en français, plusieurs chapeaux, et que d'un côté, vous êtes avocat à l'international, de l'autre, vous êtes donc une grande figure reconnue dans l'univers de l'étude de ces mouvements, et de l'autre, vous continuez à faire quantité d'autres activités, dont un grand intérêt pour la culture populaire. Et d'où vous est venu cet intérêt initialement? Quand vous étiez enfant, c'était Emilio Salgari, je pense vous avoir vu dire dans un des entretiens que c'était le grand romancier d'aventure Emilio Salgari, mais aussi Rudyard Kipling et quelqu'un de moins connu en France qui est Luigi Ugolini. Il avait écrit Ugolini L'Isola non trovata en 1950, donc l'île perdue, non trouvée. Et ce seraient ces lectures-là qui vous auraient emmené à vous intéresser pour les phénomènes religieux un peu hétérodoxes, disons.
Oui, je pense effectivement ce roman Salgari, Kipling, Ugolini. Je vous signale qu'il y a tout un débat qui n'est pas résolu si l'on doit dire Salgari ou Salgari.
Ah oui, c'est vrai?
Il n'est pas résolu jusqu'à ce jour. Donc, oui, on peut dire Salgari également. Oui, je pense que ce sont ces lectures qui m'ont amené à m'intéresser aux religions. Et je dis toujours que dans ma grande bibliothèque de plus de 70 000 volumes qui est ouverte au public, il y a un bibliothécaire. Oui, pas maintenant avec le COVID, mais c'est normalement ouverte au public. Et le livre plus ancien, c'est la reliure de fascicules qui sortaient toutes les semaines de la grande encyclopédie de religions du monde Hachette, qui était traduite en italienne et que j'achetais toutes les semaines quand j'avais 11 ans. Donc, je suis passé, je dirais, des romans qui mettaient en scène l'hindouisme avec Salgari, le voodoo avec Ugolini, à lire une encyclopédie populaire dont maintenant je me rends compte qu'il y avait plusieurs erreurs, mais enfin, pour un garçon d'11 ans, c'était une belle ouverture. Et je dois dire aussi que je faisais beaucoup de compétitions de ski, pas vraiment au niveau international, mais quand même au niveau national. Donc, à un moment donné, je suis allé vivre dans un village de montagne. Et là, pour des raisons hasardeuses, le fils d'un grand hôtelier local, son père est mort, il avait à s'occuper des hôtels, c'était un diplomate de la diplomatie vaticane, qui donc avait une expérience différente du curé d'un hameau de montagne moyenne. et qui, au contraire peut-être de quelques autres prêtres des années 60, il m'a beaucoup encouragé à m'intéresser aux religions non chrétiennes. Et lui, il avait cette expérience de diplomate, donc on pouvait bavarder avec lui de plusieurs choses. Et il était un homme d'un côté conservateur dans sa théologie, mais très ouvert à un jeune homme qui s'intéressait à des autres religions. Mais à part cette littérature, je dirais, écrite, oui, il faut aussi mentionner la bande dessinée, évidemment. Et la bande dessinée, c'est quelque chose que aussi j'ai toujours collectionné au début en italienne et puis dans des éditions originales américaines, notamment parfois françaises. Et donc la bande dessinée aussi ouvrait des mondes. Et au contraire, ce n'est que quand j'ai commencé à publier des études sur la culture populaire et la bande dessinée qui n'ont jamais occupé la plupart de mon temps. La plupart de mon temps, c'est le mouvement religieux, que je me suis rendu compte qu'avant la bande dessinée, il y avait les fascicules populaires. Les fascicules populaires dans quelques pays du monde, notamment dans deux pays, le Québec et les Pays-Bas, il a continué pour plusieurs années lorsque la bande dessinée dominait déjà. Et donc, j'ai mis ensemble ce que je pense être la plus grande collection au monde, même si l'Université de Minnesota en a une qui peut se comparer, de fascicules populaires.
C'est extraordinaire. En fait, vous avez créé, vous avez été un des fondateurs du Centre pour l'étude de la culture populaire, le CESPOC, et qui a donc une magnifique page web avec quantité de reproductions, de couvertures, de ces fascicules, etc. Mais on peut physiquement aller voir donc cette bibliothèque quand la pandémie sera finie, j'imagine, et on peut les consulter.
Et malheureusement, l'histoire du CESPOC, c'est qu'avant la crise économique, on avait des aides publiques. Et si ces aides qui se sont donc interrompues auraient continué, on aurait pu mettre des dizaines de milliers de couvertures sur Internet, mais peut-être un jour on le fera. Et évidemment, parmi mes différents intérêts, il y a des liaisons. Par exemple, j'ai écrit un article justement sur la figure de Madame Blavatsky dans le fascicule populaire. Et il s'avère, par exemple, vous savez que le héros du fascicule populaire le plus connu dans le monde, c'était Nick Carter.
Oui.
À un moment donné, avant la Deuxième Guerre mondiale, Nick Carter était traduit même en russe et en arabe. Et chaque semaine, on vendait ses aventures à la chiffre incroyable de 70 millions d'exemplaires.
C'est incroyable, oui.
Et un personnage qui, à un moment donné, est rentré, je dirais, et ça fait partie de la grande époque de Nick Carter, c'est une certaine Irma Blavatsky. Évidemment, elle a une secte tibétaine malfaisante et c'est donc une personnage qui est calqué sur la légende de Madame Blavatsky. Seulement, Madame Blavatsky n'était pas physiquement une jolie femme. Elle le disait elle-même, elle l'expliquait pour le fait que sa réincarnation féminine, c'était très rare. Elle avait été Paracelse et normalement, ses incarnations étaient masculines. Donc, elle paraissait un peu masculine à cause de ses vies précédentes, alors que pour dans les fascicules populaires, évidemment, c'est Irma Blavatsky qui est très belle, tombe amoureuse de Nick Carter, même s'il est son ennemi. Et donc, il a fallu la transformer dans une femme fatale que Madame Blavatsky n'a jamais été. Mais aussi, même dans les fascicules de langue française, il y a plusieurs héros qui maîtrise des arts magiques qu'ils ont normalement appris en Orient. Et donc, il y a un peu d'orientalisme comme Sard, Dubnotal ou Fascinax qui ont appris en Inde des arts magiques, de l'hypnotisme.
Oui, tout à fait. Et c'est aux États-Unis, c'est les pulps qui vont reprendre cet imaginaire-là avec des héros, pratiquement déjà des super-héros, tels que Green Lama, par exemple. Donc oui, il y a une filiation assez fascinante. Et c'est très, très curieux que ce soit à travers Salgari donc, que vous avez eu cet intérêt initial, puisque lui, je pense qu'il n'a jamais été en Orient, mais il avait une grande fascination dans Sandokan, etc. Il y avait toujours la secte des Thugs qui était toujours...
C'est l'Italie, donc...
Oui.
Armchair traveler, comme on dit, quelqu'un qui s'achetait des livres et qui avait une géographie tout bien considérée assez exacte, car... Il est le mort suicide, comme vous le savez.
Oui, c'est très triste. Oui, oui. Il ne pouvait pas payer la vie de sa famille. Il avait une vie très... Malgré le fait que c'était le romancier italien le plus connu, c'était un système... précisément, cette littérature était très peu payée pour les écrivains. Il fallait qu'ils écrivent sans cesse. Il a écrit des centaines de livres. C'est impressionnant. Ils sont toujours pas traduits en espagnol. Ils étaient traduits. Moi, j'ai lu ça quand j'étais très petit. J'adorais. Et je pense que j'ai lu un tiers de l'œuvre de Salgari parce qu'en Espagne, on a vraiment tout traduit. Mais en France, je sais que non. Et on a interviewé l'autre jour Mathieu Letourneux qui a fait l'édition en volume collection bouquin avec Le Corsaire Noir et Sandokan et quelques autres récits. Lui, il aurait voulu faire plus. Mais la maison d'édition a considéré que déjà un grand livre, c'était assez. Et donc ici, je pense qu'en français, on n'a jamais eu toute la saga, ni de Sandokan, ni du Corsaire, ni des les autres grandes sagas.
Par contre, en italien et aussi en espagnol, on a traduit Saturnine Farandole de Romida.
Oui.
Et là, il y a toute une partie sur le Mormon.
Oui.
Où notamment c'est un portrait amusant de la polygamie.
Oui.
On retrouve, j'ai participé il y a 2 ans maintenant à Bordeaux, à un colloque sur le Mormon à l'Université de Bordeaux, où il y avait toute une partie sur le Mormon dans la littérature populaire et aussi dans l'opéra bouffe.
Oui, parce que ça avait suscité beaucoup d'intérêt au 19e siècle. Ça semblait comme une sorte de truc exotique, un peu farfelu, vaguement inquiétant. Donc, c'est vraiment fascinant. Ça vous a amené aussi un intérêt pour le personnage majeur de Dracula, l'intérêt pour la culture.
Alors, oui, ça, c'est venu un peu par la bande dessinée. Évidemment, quand j'étais... teenager, il y avait le tombeau de Dracula.
Oui. Et, magnifique, il y a la réédition, Marvel a fait la réédition intégrale, oui. Tomb of Dracula. Oui.
Et donc, de là, je suis passé à collectionner des éditions Dracula, dont la première, des bouquins. Aussi là, je pense que j'ai une grande collection. Mais je dois dire que de prendre cela au sérieux et organiser le colloque, c'était la rencontre avec Gordon Melton, qui est donc quelqu'un qui est professeur d'histoire de religion, grand spécialiste du nouveau mouvement religieux aux États-Unis. Il est maintenant à la Baylor University au Texas, mais il était en Californie avant. Donc, c'est avec lui que nous avons organisé des colloques, compilé une bibliographie immense de plus de 10 000 titres. Avec de vampires qui est en ligne d'ailleurs en langue anglaise, il y a je pense presque tout, et à un moment donné j'avais sur 10 000 titres peut-être 9 500, mais j'ai vendu ces de pre-code devant le comic code à un moment donné, car je n'avais pas vraiment les moyens de le conserver dans les conditions nécessaires que seulement les bibliothèques ou les grands collectionneurs.
C'est un grand problème, nous l'avons déjà évoqué dans d'autres entretiens, c'est un grand problème la conservation de la culture populaire, parce que pendant longtemps, déjà parce que les matériaux n'étaient souvent pas de première qualité, par exemple les pulps étaient eux-mêmes désignés dans le terme pulp, ça désignait le type de papier de très, très mauvaise qualité. Et en fait, effectivement, ça pose des problèmes de conservation et ça pose aussi le problème que pendant longtemps, ce n'était pas considéré comme quelque chose d'important, comme un vrai patrimoine. Et c'est très dommage. En Espagne, il n'existe pas de bibliothèque. Enfin, la Bibliothèque nationale a commencé depuis une dizaine d'années à essayer de garder les fascicules espagnols, les romans feuilletons, les bandes dessinées. Mais c'est immense, c'est des milliers de titres et il y a très peu de travail. Donc, je vous félicite d'autant plus pour ce travail de collection parce qu'il est majeur, c'est tout un passé de nos cultures.
Précisément, le problème le plus ancien des cartes, j'ai décidé de ne plus acheter car il tombe en miettes.
C'est ça, oui, c'est incroyable.
Il faut donc des ressources d'une bibliothèque universitaire ou quoi pour les conserver que je n'ai pas. Mais oui, moi, maintenant, j'ai 65 ans et cette partie culture populaire, un jour ou l'autre, il faudra trouver une bibliothèque ou plusieurs bibliothèques pour la destinée. Également, évidemment, la partie majeure, ça fait quelques 50 000 volumes sur le nouveau mouvement religieux.
C'est incroyable. Vous devez avoir une des plus grandes, avec Umberto Eco et Roberto Calasono, je pense qu'ils sont deux grandes bibliothèques italiennes. Eco, je pense qu'il a finalement, elle est, malheureusement, je pense qu'elle a quitté l'Europe, la bibliothèque d'Umberto Eco. Mais Umberto Eco est un peu celui, c'est un peu ce mouvement qui a ouvert en Italie les études un peu sur la culture populaire, non? L'intérêt peut-être.
Oui, j'ai parlé avec Umberto Eco plusieurs fois, il s'intéressait aussi à l'ésotérisme.
Oui, bien sûr.
Par exemple, un colloque sur Cagliostro dans la prison où il est mort avec Umberto Eco.
Wow.
Donc oui, on a fait plusieurs choses ensemble. Et Umberto Eco, il a écrit Apocalyptici e Integrati.
Oui, c'est un grand livre qui n'a jamais été traduit. Il a été traduit en espagnol intégral, mais il n'a jamais été traduit intégralement en français.
Je pense que ça vient de cette discussion, car Eco était un homme de gauche.
Oui.
Ça vient de cette discussion avec le marxiste pur et dur, qui voyait dans la bande dessinée un produit du capitalisme pour manipuler les prolétaires et les convertir au capitalisme. Et pour lui, là, c'était les apocalyptiques qui avaient une idée tout à fait complotiste de la bande dessinée qui n'était pas vraie. Et il faisait noter que les grands auteurs américains de la bande dessinée étaient souvent des juifs de gauche, donc qui ne venaient pas d'un monde réactionnaire. Mais au contraire, il critiquait aussi les intégrati, c'est-à-dire ceux qui étaient intégrés à l'industrie de la bande dessinée et qui n'en disaient que du bien. Mais j'ai pensé à Umberto Eco dans ce jour, car je suis en train de relire les traductions italiennes de Tim Tyler's Luck, qui en Italie s'appelait Cino e Franco.
Oui, dont il parle dans son livre autobiographique, La princesse. C'est quoi?
La fiamma de la regina Loana. Là, oui. Car en Italie, alors, on a coupé toute la première partie de Tim Tyler's Luck qui se déroule aux États-Unis et on a traduit que la partie africaine. Ce qui fait que la flamme mystérieuse de la reine Loana c'est le numéro 2 de Cino e Franco, c'est-à-dire de Tim Tyler's Luck en italienne. Et c'était, oui, l'un de bandes dessinées plus vendues en italienne. Et je me suis dit, je le réalisais hier, qu'aujourd'hui, on ne pourrait plus l'imprimer.
Oui, c'est sûr.
C'est pas politiquement correct.
Curieusement, je sais qu'il y a une librairie d'occasion à Montréal qui a des fascicules en italien. Alors, c'est très drôle. Il y a une grande communauté italienne, évidemment, à Montréal. Et donc, c'est probablement quelqu'un d'une famille qui a hérité ça et qui ne savait pas trop quoi en faire. Et donc, bon, c'est un peu hors de prix. C'est pour ça que je ne l'ai pas acheté. Mais c'est sympathique de savoir qu'au moins, il y a un exemplaire de l'édition italienne.
Évidemment, côté politiquement correct, il y a pire, il y a Mussolini dans l'Église italienne.
Bien sûr, oui, oui. Ben, c'était la communauté italienne des années 30 et la vision était totalement différente. C'est clair que tout le débat sur le passé des valeurs dans la culture populaire ne peut se comprendre qu'à partir d'une vision d'histoire culturelle, justement.
En ce qui concerne Montréal, il faut dire que votre peintre italo-canadienne, par cette église, il était payé par le gouvernement italien, mais il n'était pas fasciste. Et donc, si vous faites attention, normalement, dans une église, il y aurait le personnage qui converge sur le centre, donc sur Jésus-Christ. Mais vous voyez Mussolini et ses acolytes qui tournent le dos à Jésus.
C'est très intéressant. Oui, c'est passionnant. Oui, oui, il faudra que je repasse. Je l'avais vu quand j'étais arrivé. Et donc, parallèlement à cet immense intérêt et cette grande érudition par rapport à l'histoire donc, de la culture populaire comme telle, vous êtes devenu donc un des très grands spécialistes au monde de ce que vous appelez dès 1990 les nouveaux mouvements religieux, donc i nuovi movimenti religiosi, sette cristiani e nuovi culti. Et dans la foulée, vous écrivez aussi, de la même année, Il Cappello del Mago, que j'aime beaucoup le titre en italien, donc le chapeau du magicien, I nuovi movimenti magici dallo spiritismo al satanismo, qui a été partiellement traduit en français comme La magie, les nouveaux mouvements magiques. Et donc, vous dessinez d'emblée, en 1990, un nouveau regard sur des choses qui étaient très, très populaires dans la presse, dont on parlait, dans les pratiques aussi, depuis les années 60, et qui avaient suscité surtout des réactions, soit de panique morale autour de ça, soit une vaste production d'auto-célébration. Et là aussi, on peut retrouver un peu les apocalyptici e integrati, les apocalyptiques et les intégrés, et vous essayez d'avoir une vision plutôt de compréhension et aussi d'une grande érudition, parce que quiconque veut savoir, connaître un peu l'immense étendue de ce domaine-là, la quantité de différents courants, etc., vous décrivez ça avec une grande capacité d'analyse et de synthèse, et vous dessinez très bien quelles sont les grandes familles de ces nouveaux mouvements. D'un côté, il y a ce que vous appelez les nouveaux mouvements religieux, et de l'autre, il y a les nouveaux mouvements magiques. Alors, ils peuvent interagir, et il y a des liens qui se créent entre eux, mais il y a aussi des profondes différences. Alors, à partir de là, vous allez beaucoup travailler, retravailler sur ça, mais si on peut juste revenir donc à ce moment, en 1990, qu'est-ce qui vous a, donc, à part cet intérêt pour les religions orientales, parce qu'au fond, vous auriez pu étudier aussi les mouvements, les religions comme telles, mais vous vous intéressez vraiment à ces nouveaux, donc à ces transformations à travers la théosophie, etc., etc. Et qu'est-ce qui vous mène à ça?
Alors, il faut dire que j'ai fait ma thèse sur un argument qui n'avait apparemment rien à faire avec les mouvements religieux, c'est-à-dire sur John Rawls, qui était un philosophe lié au Parti démocrate américain de la politique, qui semblait plus important à l'époque qu'il ne s'est révélé dans l'histoire. Mais alors, ce fait de travailler sur John Rawls, qui était professeur à Boston, m'a amené à aller plusieurs fois passer du temps aux États-Unis et, en étudiant la politique américaine, avoir la grande influence des religions. Et l'une des religions qui avait attiré mon attention, c'était justement le mormonisme, qui dominait la scène politique à Utah, mais qui était assez influent dans la politique américaine nationale. On l'a vu par la suite avec un candidat mormon, Romney, à la présidence même des États-Unis. D'ailleurs, le deuxième candidat mormon, Carl Joseph Smith, le fondateur de Mormon, s'était aussi porté candidat à la présidence des États-Unis, et c'est l'une des raisons qui a amené sa fin, on l'a tué en disant que le Mormon voulait prendre le pouvoir politique aux États-Unis. Mais lui, il était alors un candidat indépendant, mais Romney est devenu le candidat du Parti républicain, ce qui est bien plus important, évidemment. Donc, ce n'est pas que le Mormon, évidemment, le pentecôtiste avait une influence politique évidente et d'autres groupes. Donc, j'ai commencé à m'intéresser à la structure de ces mouvements. J'ai passé du temps à Salt Lake City, par exemple, en collectionnant de la littérature scientifique sur le Mormon. Et je me suis dit, quand je suis... Oh, il y avait aussi le révérend Moon qui avait une influence sur le Parti républicain, et auquel j'allais consacrer mon premier livre dans ce domaine. Alors, mon premier livre publié en italien, c'était sur John Rawls, c'était ma thèse publiée par Giffrey. Mais après, c'était un petit livre sur le révérend Moon, donc, qui était à la une justement par son amitié avec Nixon, son influence sur le Parti républicain. Et je me suis dit qu'il y avait là une niche qui n'était presque pas exploitée dans l'Europe du Sud. Et il y avait des chercheurs universitaires en Angleterre, comme Eileen Barker, ou Jim Beckford, ou Roy Wallis, qui s'intéressaient à ça. Mais rien en Italie, comme vous le disiez, il y avait des ouvrages journalistiques à sensation, un peu de boulevard, sur ce type de mouvement, même les mormons qui sont un grand mouvement, il y avait encore, on lisait des choses amusantes sur la polygamie qui venait du 19e, mais il n'y avait rien de sérieux. Donc, je dirais, je commençais par un petit livre sur le révérend Moon, et après j'ai écrit des autres petits livres sur le mormon et les témoins de Jéhovah. Et mon idée, c'était justement d'éviter les apocalyptici et les intégrati. Car d'un côté, il y avait la littérature catholique en Italie qui mettait en garde contre les hérésies de ces mouvements, et de l'autre côté, il y avait la littérature produite par le mouvement même qui faisait son travail normal d'apologétique. Et donc là, il y avait une niche, ce qui m'a amené à fréquenter des autres chercheurs. Le premier que j'ai rencontré dans des colloques, c'était Jean-François Maillet, un historien suisse, et Eileen Barker et Gordon Melton, qui faisaient partie d'une autre génération, mais auquel je suis toujours très lié, avec lequel on a fondé le CESNU en 1988. Justement pour créer une organisation qui ne serait pas la section nouveau mouvement religieux. Ça existait déjà de l'American Academy of Religion ou de l'Association de sociologie de religion, mais une association consacrée à l'étude de nouveaux mouvements religieux qui évidemment existe toujours. Et au début, on avait plusieurs sessions consacrées à ce que j'appelais nouveau mouvement magique, mais je dirais que des jeunes chercheurs qui ont participé au colloque de CESNU, finalement, ont créé leur propre organisation de spécialistes de mouvements ésotériques. Il y en a en réalité deux. Il y a l'ESPE, la Société européenne pour l'étude de l'ésotérisme occidental, et l'Association américaine pour l'étude de l'ésotérisme. Donc, je participe à leurs activités également. Mais ils ont fait quelque chose d'excellent, d'ailleurs. C'est une espèce de CESNU, mais dans le domaine de l'ésotérisme. Vous savez, ma catégorie de nouveau mouvement magique a été discutée par tous les spécialistes de cette terre à partir d'Antoine Fèvre. Ils n'ont pas nécessairement accepté tout ce que je disais, mais ça a créé beaucoup de discussion, car ce que je voulais montrer, c'est que finalement, l'ésotérisme n'était pas qu'un phénomène littéraire ou d'individus ou de maîtres qui écrivaient de bouquins, mais qui s'organisait en mouvement structuré qui était somme toute assez similaire au nouveau mouvement religieux. Et je dirais qu'avec le nouveau siècle, le passage au nouveau siècle, j'ai développé d'autres intérêts et c'est notamment dans deux directions qui continuaient notre travail. Le premier, c'était l'influence de l'ésotérisme, non pas seulement sur la culture populaire, mais sur l'art moderne. Donc, j'écris beaucoup sur des artistes influencés par la théosophie, le spiritisme, la science chrétienne et plus récemment la scientologie. Par exemple, j'ai écrit notamment un article en français, mais il y en a plusieurs en anglais, sur Lawrence Harris, le grand peintre canadien qui était quelque peu missionnaire de la théosophie. Il avait même une émission de radio pour faire de la propagande théosophique. Donc, lui, comme un peu le groupe de Group of Seven, le groupe de Toronto, qui était autour de lui, c'était des gens liés soit à la théosophie, soit à la science chrétienne.
Oui, tout à fait. Et je pense qu'on peut voir sur YouTube une conférence extrêmement intéressante sur cet aspect-là de l'avant-garde canadienne et ses liens avec la théosophie.
Et la science chrétienne en plus, qui au Canada aussi a eu une importance artistique. Et de l'autre côté, j'ai participé à toute une discussion. Aux États-Unis, on dit souvent que le nouveau mouvement religieux serait un peu en perte de vitesse, c'est-à-dire le groupe traditionnel, comme la scientologie ou le Devote Krishna ou l'église du révérend Moon, ils sont plutôt statiques, ils n'ont plus cette croissance qui gênait pas mal de monde au siècle passé. Et la réponse à ça, c'est qu'il y a de mouvements qui ont des chiffres bien plus importants en Asie. Et donc, j'ai passé beaucoup de temps à Taïwan, en Corée du Sud et même en Chine, jusqu'à ce que et j'ai encore un dialogue en réalité avec plusieurs spécialistes chinois, mais je me suis dit que la répression religieuse après l'arrivée de Xi Jinping, c'était quand même épouvantable. On ne pouvait pas jouer le jeu académique de participer à des colloques sans protester, ce qui m'a amené avec des amis à créer un quotidien qui ne s'occupait que de la liberté religieuse en Chine, Bitter Winter, en mai 2018, et on publiait des articles tous les jours sur la Chine. On avait des correspondants chinois qui, évidemment, écrivaient sous faux nom. Et le projet, c'était très ambitieux, c'était dans 8 langues, mais les coûts de traduction étaient épouvantables, donc on a eu beaucoup de succès. Par exemple, dans le rapport annuel que le département d'État des États-Unis fait sur la liberté religieuse, dans le chapitre Chine, l'année passée, Bitter Winter est mentionné comme source 74 fois, bien plus que le New York Times, par exemple. Mais ça ne correspondait pas, franchement, à des donations importantes. Donc, maintenant, on a un peu changé la formule. On ne publie plus qu'en anglais. Mais en revanche, depuis décembre l'année passée, on a deux sections tous les jours, une section Chine et une section internationale avec des questions de liberté religieuse à l'échelle internationale.
Donc la forme... C'est passionnant et ça montre aussi que c'est un domaine qui n'est pas évident. Et quand vous avez commencé dans les années 90, je pense que beaucoup de ces informations dont vos livres sont vraiment des immenses réceptacles. Il y a des liens à des brochures, à des documents très, très rares. Et ça a dû être un vrai défi pour faire de l'enquête, parce qu'il y a un mélange d'enquête et de réflexion. Mais c'est rare, parce que souvent, on est habitué dans le monde académique à l'aspect de l'enquête, l'analyse, une fois que d'autres ont fait le travail d'enquête. Mais dans votre cas, il y a vraiment un travail à la fois d'enquête et à la fois de réflexion. Et ça n'a pas dû être évident d'entrer un peu dans ce circuit. Il y a quantité de choses que vous évoquez qui sont quand même confidentielles presque de ces groupes-là.
Oui, je dois dire, mon dernier livre, par exemple, et ça fait, je dirais, depuis 5-6 ans, je n'écris presque plus qu'en anglais. Et les deux derniers livres ont été publiés par Oxford University Press. Le tout dernier, c'est sur l'Église de Dieu Tout-Puissant. Ça a été traduit en français aussi, mais il est paru en anglais chez Oxford. Alors, l'Église de Dieu Tout-Puissant, c'est le plus grand nouveau mouvement religieux chinois. Dans ce moment, je dirais, il est devenu plus grand que Falun Gong. Et c'était un mouvement très secret. Et comme il était très persécuté, il était très, très secret. Ce n'est, je dirais, il y avait une chercheuse australienne qui avait fait sa thèse de doctorat sur eux, mais avoue n'en savoir pas beaucoup, car elle a dû prendre des documents de police, ce qui existait sur Internet. Mais elle a fait sa thèse, qu'elle a publiée chez Brill, sans jamais avoir rencontré un membre de ce mouvement. Alors que moi, j'ai profité du fait qu'il y avait un influx massif de réfugiés en Occident et qui avaient finalement besoin d'aide, car il était très mal compris, très attaqué par une propagande qui venait de la Chine. Et donc, ils ont compris finalement que les universitaires n'étaient pas des ennemis. Donc, j'ai fait des centaines d'interviews, ce qui a mené ce livre « Inside the Church of Almighty God ». Et c'est vraiment, oui, un travail très intéressant pour moi de pénétrer dans un mouvement qui était, je dis, absolument fermé. Donc, d'avoir accès à leurs archives historiques, qui évidemment ne sont plus en Chine, sont à l'étranger, à leurs documents, mais aussi à partager leur vie dans une douzaine de pays, la vie des réfugiés. Évidemment, en Chine, je n'ai pas eu à avoir aucun contact, mais quand même, avant que je ne publie Bitterwinter, j'allais encore en Chine, et justement, j'avais été invité par la police chinoise à bavarder avec eux, car la police chinoise, qui est très fort dans des autres domaines, mais ils ont beaucoup de difficultés à comprendre quelle est la théologie de ce groupe qui l'oppose. Et pour eux, ce sont des choses tellement bizarres et étranges. Donc, ils parlent volontiers avec des spécialistes occidentaux pour comprendre qu'ils sont vraiment au-delà de leur propre propagande du gouvernement chinois.
C'est curieux. C'est très, très curieux. En 93, donc, il y a ce livre qui n'est pas traduit, qui est « Il ritorno dello gnosticismo », je ne sais pas comment on prononce en italien, mais c'est le retour du gnosticisme. Et ça avance, parce que de la même façon que votre livre sur les nouveaux mouvements magiques annonce, au fond, une immense révolution dans les études, parce qu'il y a depuis les années 2000 quantité d'ouvrages consacrés à l'histoire, ce qu'on appelle souvent en anglais « occulture », donc la culture occultiste, et de plus en plus de thèses sur l'influence de l'occultisme sur Newton, l'influence de l'occultisme de la pensée de la Renaissance hermétique. Il y a comme une sorte de nouvelle généalogie qui est en train de se faire de la modernité, de la raison, de l'art, bien entendu, le romantisme, évidemment, mais aussi d'autres courants. Donc, en ce moment, oui, il y a une immense explosion, mais vous étiez parmi les dévanciers. Et il en va un peu de la même avec la gnose et le gnosticisme. Il y a beaucoup, nous avions un entretien aussi avec Pacôme Thielman qui applique beaucoup le schéma de la gnose à la culture populaire contemporaine et pour qui il y a beaucoup d'aspects de la culture populaire contemporaine qui reviennent du gnosticisme. Alors, j'aimerais juste vous entendre un petit peu sur ce livre, sur le retour, ce que vous considériez comme le retour du gnosticisme, donc à la fin du XXe siècle.
Alors, je dirais, ce livre, c'était, donc, il avait une introduction, mais après, dans sa plus grande partie, se limitait aux ratios explicites du gnosticisme, c'est-à-dire sur ceux qui ont voulu créer des églises ou des mouvements néo-gnostiques, qui ne sont pas petits, c'est-à-dire ils sont assez petits à... Je dirais en Italie, où il y a une église néo-gnostique qui était plutôt en courant de la franc-maçonnerie. Mais si, et c'est ce que je disais dans ce livre déjà, si on va en Amérique du Sud ou au Mexique, alors ces groupements néo-gnostiques, ils ont des dizaines de milliers ou des centaines de milliers de personnes qui s'y intéressent, notamment dans une combinaison entre néo-gnosticisme et magie sexuelle. C'est un autre argument sur lequel j'ai beaucoup écrit. Si je devrais revenir aujourd'hui, maintenant, donc, ce n'est même plus originel, mais moi, j'ai écrit, je pense, il y a 2 ans, un article assez long qui s'appelait « The Gnostic Hubbard » avec référence au fondateur de la scientologie. Mais je ne suis pas le seul, je dirais que le livre qui se sont intéressés non pas aux controverses sur la scientologie, mais à la pensée de Hubbard, je pense notamment aux travaux d'un prêtre catholique italien, Aldo Natale Perrin, qui a écrit sur la philosophie de Hubbard. Il a aussi utilisé la catégorie du gnosticisme pour Hubbard. Donc, c'est vraiment quelque chose de gnostique, et je dirais que les plus grands mouvements néo-gnostiques, c'est justement la scientologie, ce ne sont pas les églises gnostiques qui ont ce nom, car la vision du monde de la scientologie, nous sommes des dieux qui sont tombés dans le monde et avons oublié que nous sommes des dieux, les tétans, c'est finalement le pur gnosticisme. Mais c'est que le gnosticisme est filtré, je dirais, par 2 choses, et je pense que mon prochain livre va un peu se pencher sur la figure de Hubbard. D'un côté de la fascination dont on parle très peu qu'il avait pour l'Orient, car avec ses parents, il avait voyagé en jeune homme en Chine, au Japon, donc il avait eu une expérience directe de l'Orient, qui les portait d'un côté à être un peu, je dirais, orientaliste, donc à dire oui, non pas notre technologie américaine, tous ces Chinois, mais de l'autre côté, il y a une fascination, par exemple, pour le bouddhisme chez Hubbard, et encore de l'autre côté, évidemment, c'est filtré par la culture populaire, car Hubbard, avant la Deuxième Guerre mondiale, il est surtout un auteur de pulps.
Oui, tout à fait. Et on est en train de rééditer, parce qu'on le connaissait dans la science-fiction, mais on est en train de rééditer les pulps de Ron Hubbard dans différents domaines, comme beaucoup de polygraphes de pulp. Il faisait aussi des westerns. Il me semble qu'il a fait quelques Oriental Stories, qui était un sous-genre du pulp aussi.
Exactement intéressé, car par exemple, dans mon article de Gnostic Hubbard, beaucoup se sont intéressés aux périodes qu'il a passées chez Jack Parson dans le district d'Aleister Crowley, mais il y a très peu de gens qui ont vu que l'intérêt de Hubbard pour la magie, et c'est un intérêt qu'on peut voir dans ça, justement dans certains de ses romans d'aventure ou pulps. Donc, il avait des idées sur la magie bien avant de connaître la pensée de Crowley par Parsons.
Oui, Parsons qui a fait l'objet d'une série télé intéressante, malheureusement avortée. Et il y a aussi une très bonne biographie qui est sortie, qui s'appelle Amazing, et qui est une biographie croisée de Hubbard, Heinlein et Campbell, et donc différents auteurs qui ont eu des rapports personnels à part des rapports professionnels et qui montre bien comment autour de la science-fiction, il y avait toutes ces inquiétudes, parce qu'évidemment, c'était des grands lecteurs, c'était des gens très avides de s'ouvrir, et contrairement à l'image qu'on se fait un peu du fandom de la science-fiction comme quelque chose de très, très, très polarisé sur le genre, en fait, c'était des gens qui s'intéressaient à énormément de choses de leur époque.
Oui, exactement. Donc, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire sur Hubbard, par exemple, car Hubbard, encore une fois, c'est la dichotomie apocalyptique et intégrante. Les biographies qui existent de Hubbard, il y a une grande biographie faite par la scientologie, qui est évidemment la typique apologétique d'un fondateur de religion par sa religion. Et puis, il y a des livres de polémique qui insistent sur le fait qu'il était un escroc, un malfaiteur. Mais il n'y a presque rien au milieu, c'est-à-dire de dire que c'était un personnage complexe. Et on étudie, il y a quelques études, mais notamment Terrin, qui n'est pas traduit hors de l'italien, sur sa théologie. J'étais moi-même dans le jury d'une thèse d'une fille au Danemark, mais elle aussi avait été traduite pour nous, pour que nous puissions participer à la session de doctorat en anglais. Et cette fille, Dorte Roffen Christensen, qui a écrit quelques articles en anglais, alors elle avait fait un doctorat en théologie. Donc, elle avait voulu effectivement étudier la théologie de Hubbard en mettant entre parenthèses les controverses sur la scientologie. Mais sauf ça, il y a très peu, donc.
Oui, pour les gens qui nous écoutent, je confirme que le titre donc, de la biographie croisée, c'est Astounding, et non pas Amazing, c'est l'autre grand magazine de pulp de science-fiction. Donc, Astounding, John Campbell, Isaac Asimov, Robert Heinlein, Ron Hubbard and the Golden Age of Science Fiction. C'est Alec Nevala Lee qui a publié ça. C'est un grand livre pour tous les gens qui s'intéressent à l'histoire de la science-fiction, mais aussi à la trajectoire de tous ces personnages qui sont extrêmement intéressants, de les comprendre un peu aussi comme une sorte de groupe. Ça n'a jamais été une avant-garde, évidemment, mais c'est quand même des groupes d'écrivains qui ont partagé des intérêts.
Si on veut prendre un autre exemple, je viens de lire un livre très intéressant d'un collègue italien, un italien malheureusement, Franco Pezzini, qui s'appelle « Nos chimiques » d'Aleister Crowley, et qui est en réalité un livre sur l'influence de Crowley sur la culture populaire, donc le cinéma, le roman, la bande dessinée, la musique, et d'ailleurs l'influence de la culture populaire sur Crowley. Et je dirais que le fil conducteur de ce livre, c'est le roman de William Somerset Maugham, The Magicians, où le caractère principal, Oliver Haddock, s'est basé sur Crowley, que Maugham avait d'ailleurs connu. Mais alors, le plus intéressant, c'est non seulement l'influence que ce roman a eue sur le design d'autres romans, mais l'influence qu'il a eue sur Crowley. Car Crowley, il a fait un compte-rendu assez, je dirais, piqué. Et il a signé ce compte-rendu sur Vanity Fair, Oliver Haddock. Mais d'un autre côté, ce que dit Pezzini, qui me semble plutôt convaincant, c'est que Crowley a beaucoup aimé le roman et a essayé de, je dirais, prendre des attitudes, surtout quand il parlait avec la presse, en s'identifiant avec le mauvais Oliver Haddock. Car au fond, il était flatté d'avoir été pris comme caractère principal d'un roman d'un grand novelliste américain.
Oui, ça nous ramène à votre grande étude sur le satanisme, donc Il Satanismo, en 97, traduit en France, Enquête sur le satanisme sataniste et antisataniste du XVIIe siècle à nos jours, qui est vraiment un chef-d'œuvre. L'édition américaine, vous disiez, est encore plus complète.
Et Brill, c'est un éditeur néerlandais, mais qui publie pour le public académique. Oui, oui, c'est tout à fait, c'est presque double des éditions françaises et italiennes. Comme je dirais, numéro de pages, ce qui fait qu'il y a beaucoup de matériel mis à jour. Mais bon, il y a toujours de nouveaux. Je parle par exemple de Marco Dimitri et des enfants de Satan en Italie, alors que Dimitri vient de mourir il y a 2 jours. Donc, ce qui vont devenir les enfants de Satan en Italie, c'est une question.
Le livre est vraiment passionnant. Je l'ai en double, je l'ai en anglais et en français. Et en fait, j'avais pas remarqué la différence parce que je l'avais lu en français initialement. Mais je vais lire l'édition anglaise. Et le livre, il est extraordinaire parce que c'est vraiment une étude d'histoire culturelle extrêmement approfondie sur un sujet qui a été évidemment toujours très très polémique. Et vous montrez bien, parmi plusieurs autres choses, mais vous montrez bien ce que le titre français a mis en valeur, qu'au fond, il y a une sorte de dialectique entre antisatanisme et satanisme. Parce qu'au fond, c'est l'antisatanisme qui est premier. C'est d'abord des traités, des fantasmes un peu antisataniques qui vont être quelque part dans une étrange combinatoire. Parce que ce n'est pas juste ça, mais il y a une influence de cette vision, de cette fantasmagorie sur ce que ceux qui vont se réclamer satanistes vont finalement faire. Parce que ce que vous montrez, c'est qu'il est difficile de parler de satanisme avant. Par exemple, on parle beaucoup de l'affaire des poisons comme étant le point cardinal du satanisme. Or, vous montrez qu'au fond, l'affaire des poissons, c'est plus compliqué. Il n'y a pas vraiment un culte à Satan qui est fait. Il n'y a pas une volonté d'inversion axiologique, au fond très gnostique aussi, des valeurs et de substitution de Dieu le Père par Satan, mais que c'est plutôt quelque chose qui est du domaine d'une sorte de pratique de magie noire, etc. Et puis un peu plus tard, quand on commence à parler des sataniques, c'est beaucoup une littérature qui commence avec l'abbé Fiard au XVIIIe siècle, un peu avant les thèses de Baruel sur les Jacobins, la franc-maçonnerie, tout ça, tout ça. C'est-à-dire, c'est des gens qui viennent du catholicisme et qui, en général, vont dénoncer l'influence du satanisme sur soit la Révolution française, sur la franc-maçonnerie, un peu plus tard sur le plus tard au 19e, 1850, sur le spiritisme. Mais au fond, quand on commence à parler des sectes sataniques, il n'y a pas vraiment d'évidence qu'il y en ait eu. C'est surtout les critiques qui...
Non, évidemment, dans l'édition en anglais, ce qui est, je pense, un nouveau livre, il y a plus même sur le procès de Poison, car il y a eu des autres enquêtes qui ont paru, notamment faites par des Américaines qui ont redépouillé les archives que j'avais un peu vues, mais ils ont vu des autres choses, il faut les reconnaître. Donc, il y a plus sur ça. Mais il y a aussi mon débat avec des auteurs qui avaient critiqué l'édition française. Et donc, il y a cette question qui est une question ouverte. Est-ce que Wiseman a tout inventé quand il a écrit là-bas, ou est-ce qu'il avait vraiment rencontré des gens qui faisaient des rites? Et alors, s'il y a des autres comme Reumann von Loy, dont d'ailleurs j'ai participé à la défense aussi de sa thèse de doctorat, où il dit que mon livre est très important, mais finalement il le critique en disant qu'il n'y a pas eu du satanisme jusqu'au XXe siècle et que Wiseman a tout inventé, je pense qu'on ne peut pas conclure là-bas et qu'il est possible par contre que Wiseman a parlé avec quelqu'un qui a vu quelque chose.
Oui, vous le dites dans le livre que clairement c'est une possibilité. L'inversion axiologique est une possibilité.
Donc je discute avec Van Loyck justement dans l'édition anglaise. Donc c'est vrai, on ne peut pas conclure dans un sens ou dans l'autre jusqu'à l'apparition de personnages comme Maria Denaglowska, qui a d'ailleurs un satanisme très intellectuel. Donc. Et surtout avec l'explosion de mouvements sataniques, avec les hippies de la contre-culture dans les années 1960. Cela dit, on ne peut pas exclure, comme il y avait 1000 mouvements divers, surtout à Paris, dans l'ésotérisme, que quelqu'un ait aussi pensé au diable. Ça, c'est une possibilité. Mais le plus intéressant, c'est que déjà, même le livre anglais qui date de 2015 ou 2016. C'est vieux, car on devrait maintenant écrire une très grande partie sur l'épidémie d'antisatanisme dans les élections qui ont porté à la victoire de Donald Trump.
Oui, bien sûr, Quanon.
Avant Quanon, alors je vivais aux États-Unis à l'époque, en 2016. Je vivais à New York et j'ai vu le jour des élections, ou la semaine avant l'élection, dans des églises pentecôtistes afro-américaines, distribution de feuillets qui expliquaient comment Hillary Clinton, par son amitié avec Marina Abramovich, faisait partie d'un culte sataniste. Ce qui a amené ensuite à effleurer la tragédie avec le Pizzagate et des gens qui sont passés à l'action contre certaines restaurant de pizza où on disait que la famille Clinton tenait des enfants pour les sacrifier à Satan. Et il y a un homme qui allait là-bas à Washington, il est parti du Sud pour sauver les enfants avec un fusil et a commencé à faire feu sans tuer personne, heureusement. Ah, il y a eu une autre explosion d'anti-satanisme. Alors justement, j'ai conclu mon livre disant que les excès de mouvement, de panique satanique, des mémoires retrouvées, s'étaient un peu calmés. Mais je dirais qu'avec les présidentielles de 2016, ça c'était avant Quanon. Justement, il y avait tout un mouvement d'extrémistes pro-Trump qui, notamment, essayaient de lier la famille Clinton au satanisme. Donc, ça est revenu en puissance et maintenant, nous sommes au milieu d'une nouvelle vague de cet anti-satanisme.
Oui, vous montrez, historiquement, c'est très intéressant parce qu'à partir de l'abbé Fiard, qui était moins connu, parce qu'on parle beaucoup de Baruel. Quand on fait l'étude des théories du complot et du complotisme, etc., on fait souvent commencer ça avec Baruel et sa thèse que les jacobins et les révolutionnaires français étaient tous infiltrés par la franc-maçonnerie, etc., etc., et qu'il y avait une sorte de complot qui orchestrait la révolution. Donc souvent, on dit que c'est ça, mais au fond, Fiard avait commencé presque 20 ans avant a déjà dénoncé dans tous ces nouveaux mouvements de l'illuminisme qui étaient aussi populaires au XVIIIe siècle, il y voyait déjà une sorte de contre-société, de contre-ordre, une antiphysis, une antinature dominée, selon lui, déjà par une sorte de culte de Satan contre la création divine et que ça se traduisait par ces mouvements. Et ce que vous montrez, c'est un peu comment ce discours-là il réapparaît régulièrement de façon peut-être cyclique ou de façon peut-être tout simplement dialectique par rapport à des crises politiques, etc. Et comment ça traverse plus de deux siècles de la vie intellectuelle occidentale. Et à chaque fois vont se greffer des nouveaux éléments, les enfants, l'exploitation des enfants, etc., etc. Tout ça, ce sont des éléments qu'on va retrouver, évidemment, avec l'immense best-seller de Léo Taxil à la fin du 19e siècle, qui est une confluence incroyable entre le roman feuilleton, la culture populaire et ce discours antisataniste, et avec ce retournement de situation que Léo Taxil finalement dit « bon, ben, j'ai tout inventé, c'était faux », mais des gens qui continuent à dire « non, finalement, la rétractation est une fausse rétractation », etc. Enfin, c'est une histoire absolument incroyable dont vous tracez minutieusement les étapes et qui vont continuer jusqu'aux années 70 du XXe siècle, notamment au Canada, avec ce célèbre best-seller, encore une fois, Michelle Remembers, et qui vont lancer toute la panique satanique des années 80 qui va se prolonger jusqu'à l'année 90. Et dans un sens, le revival de toutes ces obsessions, ça aura pris 10 ans, presque 15 ans, 20 ans de latence pour que tout revienne avec les mêmes stéréotypes, etc.
Alors, je dirais que la situation actuelle, c'est très intéressante et c'est intéressant dans les deux camps. Je suis en train de donner à Cambridge University Press, qui me l'avait demandé par sa collection d'ouvrages brefs qui s'appelle Elements, un livre sur le lavage de cerveau, qui c'est un thème que j'ai traité notamment en français dans un ouvrage coécrit avec Dick Anthony en français. Donc, j'ai rajouté un chapitre au dernier moment en montrant qu'en réalité, ces fantômes existent dans les deux champs. Car d'un côté, il y a évidemment cette idée de international satanico-pédophile. Je vous signale un monsieur Agopian qui me fascine beaucoup, qui est un ancien militaire américain, qui a écrit un ouvrage en 43 volumes qui s'appelle L'Empire satanico-pédophile. Et on retrouvait tout, y compris Léo Taxil, mais qui finalement veut montrer qu'il y a un complot de satanistes pédophiles contre Donald Trump, contre Canon, et qui, à l'aide de ce centre en Italie, alors même si aux manifestations pro-Trump on trouve catholique, pour lui le Vatican, ça fait partie de l'international satanico-pédophile.
Et oui, même... il y a toujours la possibilité, et Taxil, c'est incroyable, parce qu'ils ont numérisé, on trouve maintenant numérisé, non seulement le livre qui a été un best-seller, mais le journal qui a été publié sur les mystères du diable, et qui était vraiment des centaines et des centaines de pages. Oui. J'ai le document, c'est vraiment c'est immense, c'était publié.
À la bibliothèque, d'ailleurs, le journal de Taxil, oui, oui. Et donc, d'un côté, chez Canon, il y a donc le 43 volumes, mais il en annonce des autres sur l'empire satanico-pédophile qui utiliserait le lavage de cerveau sur lequel d'ailleurs la CIA avait fait des expériments au Canada.
Oui, bien sûr, McGill, oui, oui, MK Ultra, oui, oui.
On ne peut pas le faire d'après la loi américaine, on le faisait au Canada. Mais donc, la théorie de Canon, c'est que ces expériments officiellement cessés en 73 n'ont en réalité jamais cessé et finalement ont abouti à cet énorme lavage de cerveau qui a fait croire au monde que Joe Biden avait gagné les élections. Donc, c'était l'opération MK Ultra à niveau mondial. Et il y a qui disent notamment par des rayons qui sont transmis par des satellites sur le monde entier pour faire croire que Biden a gagné les élections. Mais Agopian, c'est plus magique, car on dit que tout cela est alimenté par Satan et par le sacrifice humain des enfants à Satan, d'un côté. Mais de l'autre côté, si vous voyez dans la chambre adverse, il y a beaucoup l'idée que c'est Trump qui utilisait le lavage de cerveau et il y a même des avocats pour défendre ceux qui ont participé au fait de Capitol Hill en disant qu'il était victime d'un lavage de cerveau. Et on voit même des déprogrammeurs qui sortent de l'ombre et qui offrent leur service pour déprogrammer les dévots de Trump ou de Kennedy. Donc, dans les deux cas, il y a toute cette rhétorique de la secte, du lavage de cerveau, de la manipulation mentale qui est utilisée. Donc, il y a qui disent, oui, c'est Trump qui fait du lavage de cerveau, et les autres disent, c'est le deep state qui fait du lavage de cerveau. C'est pas exactement la même thèse, car chez Canon, il y a ce côté magique, c'est le diable, le satanisme pédophile. Et de l'autre côté, je dirais, c'est une revival qui n'était pas attendue de vieilles thèses contre les sectes des années 70 aux États-Unis. Mais les deux camps ont vraiment cette interprétation quelque peu magique.
Oui, je pense qu'en fait, le complotisme est devenu un paradigme de la modernité, en fait, et on le retrouve un peu dans les différents spectres politiques, les différentes mythologies politiques, d'une façon ou d'une autre. Et c'est justement l'intérêt de vos travaux que de suivre dans la longue durée l'évolution de ces imaginaires. Parce que quand on ne les voit que sur le moment, de façon purement synchronique, on perd le sens en grande partie de d'où viennent ces obsessions, ces hantises, ces motifs. Il y a des topoi, c'est des lieux communs de la pensée du complot qui sont régulièrement réadapté, parce qu'au fond, il fonctionne de façon rhétorique. là, ce serait un peu aussi le travail, par exemple, de Marc Angenot, qu'on a eu aussi la chance d'avoir en entretien. Et c'est un peu cette filiation, à la fois imaginaire, à la fois rhétorique, qui fait qu'effectivement, tout peut revenir. On ne sait jamais sous quelle forme, parce qu'à chaque fois, on va essayer de réadapter la technologie du moment, mais on retrouve un peu les mêmes obsessions, la dépersonnalisation, donc ce qui est une des grandes hantises, le contrôle mental qui est au 19e se plaçait sur l'hypnotisme, par exemple, le mythe de Svengali qui était à la fois populaire et à la fois très, très fréquent dans le discours contre ces mouvements. Donc, c'est vraiment intéressant de prendre dans la longue durée et de voir les hauts et les bas. Et ce que vous faites très bien aussi, c'est justement les classifications dynamiques. Disons que ce n'est pas des classifications statiques, voilà, il y a tel aspect, mais c'est toujours mouvant. Et justement, on peut entrer dans le pur fantasme avec des fantasmes d'invocation du diable où le diable se manifeste réellement. Et puis d'autres qui vont être plus dans des sortes de métaphorisation, le diable comme métaphore de la libération, un peu ce que fait donc la Church of Satan, etc. Mais on n'est jamais à l'abri du basculement. On peut, des gens qui sont dans un discours de célébration, de magie sexuelle, etc., ils peuvent passer du côté du fantasme. Et inversement, l'anti-satanique, il peut basculer dans la pensée magique de « oui, c'est le Satan lui-même ». Effectivement, qui nous menace et qui va revenir. Et donc, on peut, ces modulations-là, quand on les suit dans la longue durée, on voit à quel point il y a une sorte de champ des possibles de ces discours-là.
Et je pense, ce qui est intéressant et évidemment un peu dangereux, c'est qu'il y a aussi dans ce jeu du complot satanique de gouvernement qui s'amène. Si on voit, par exemple, la transmission de la télévision russe de propagande internationale Sputnik, on voit des émissions contre les sectes, qui, notamment contre les témoins de Jéhovah, qui diabolisent beaucoup ceux qui font les témoins de Jéhovah, qui sont menaces sinistres et d'ailleurs financées par le service secret américain, d'après les Russes. Mais le plus intéressant, je dirais, c'est en Chine. Je suis ça tous les jours. Et il y a cette immense propagande contre ce qu'on appelle secte, mais c'est Zhao, c'est mouvement hétérodoxe, c'est un concept typiquement chinois mal traduit par secte. Et là, si on voit surtout la bande dessinée qu'il crée encore une fois contre les Zhao, disons les sectes, mais c'est plus précis. On voit toujours apparaître le petit diable, le petit démon. Et une collègue chinoise qui enseigne à Londres, Wu Junqing, elle a écrit qu'il ne faut pas vraiment s'imaginer que le propagandiste chinois contre les sectes lise Taxil, par exemple, ou de sources occidentales, car il trouve dans le cinéma chinois beaucoup d'attaques à des sectes qui complotaient contre les empereurs, oui. Et qui étaient censés être en relation avec les démons, les mauvais esprits. Et ça se retrouve dans le cinéma de la Chine communiste. Évidemment, on dirait que là, c'est du cinéma, c'est de la fiction. On ne croit pas vraiment un bon marxiste aux esprits mauvais. Mais d'un autre côté, cette rhétorique des esprits mauvais manipulés par les mauvaises sectes, on la retrouve dans la bande dessinée ou l'animation qui est dirigée contre les dites sectes aujourd'hui.
Oui, il y a une longue histoire, et vous le montrez, il y a une longue histoire entre ces croyances et la culture populaire. Au fond, parce que dans la culture populaire, dès le roman feuilleton, il y a une sorte de besoin, Umberto Eco l'avait évoqué, une sorte de manichéisme structurel dans le roman feuilleton qui fait qu'on a besoin d'un grand antagoniste. Et il y avait une célèbre boutade, je ne sais plus qui, disait qu'au fond, une bonne œuvre, ça dépend du méchant. C'est-à-dire, si on a un bon méchant, l'œuvre est réussie au niveau de la culture populaire. Bon, on pense à James Bond. Chaque James Bond est défini par le méchant et la personnalité du méchant. Donc, il y a une sorte de fonction antagonique Évidemment, le diable est la figure parfaite de l'antagonisme ultime du bien. Et donc, il y a quelque chose dans la culture populaire qui, au fond, est toujours fasciné par la diabolisation et qui peut le traiter de différentes manières. Et inversement, ceux qui sont dans ce discours-là de croyance, ils vont être nourris par les représentations populaires les plus efficaces. Et vous parliez de Crowley, effectivement, Crowley qui commence comme écrivain, d'ailleurs, à la fin, dans le mouvement décadent de la fin du 19e siècle, qui est proche, donc, qui intègre la Golden Dawn, mais qui est aussi proche d'une sorte de décadence à la Oscar Wilde, Birdsley, etc. Et où, au début, il y a un côté esthétique aussi dans son ésotérisme, et puis qui peu à peu prend une voie différente, mais toujours cette idée de réappropriation, de dialogue entre les formes de la fiction populaire et la croyance populaire. Et puis vous avez travaillé aussi sur le New Age, qui est un peu comme la vision optimiste, disons tout à coup, par contraste avec tous ces imaginaires plutôt du côté de la part maudite, comme dirait Georges Bataille. Et donc en 2000, vous publiez New Age and Next Age, qui est traduit en français le New Age des origines à nos jours. Vous reprenez un peu les différences entre mouvements magiques, nouveaux mouvements religieux, et au fond, le New Age, qui est une sorte de conglomérat un peu informe, mais qui n'est pas totalement informe, qui a quand même à la base une sorte d'optimisme, de le côté américain, de American Dream, de You Can Make It, du Self-Made Man, la transformation, le développement personnel, etc.
C'est pour ça que maintenant on voit le New Age comme quelque chose qui a vieilli. Et donc je parlais déjà du passage au Next Age, qui n'est pas une locution que tout le monde utilise, mais qui finalement veut dire le passage de l'idée que le monde tout ensemble va rentrer dans une nouvelle époque de paix et d'amour, dans le fait que le monde ne va pas faire comme ça. Maintenant, il suffit d'ouvrir vos fenêtres, et même le plus optimiste, et ça avant le COVID, vont voir que les crises ne sont pas en train de se réduire, mais au contraire d'augmenter, mais on peut, nous, personnellement, entrer dans notre nouvel âge personnel. Donc, c'est ce passage du nouvel âge de la troisième à la première personne. Et donc, c'est tout cet immense mouvement de la méditation, qui, surtout aux États-Unis, c'est devenu très fort. Tout le monde fait de la méditation, maintenant par Internet. Mais ça, c'est un passage au nouvel âge qui ne concerne que les personnes qui participent. Ils ne pensent plus sauver le monde, mais sauver soi-même, ou plutôt sauver un petit groupe. Et c'est aussi vrai que le nouvel âge a laissé des mouvements, des îlots, des utopies, qui parfois ont du succès. Moi, je suis toujours fasciné par Damano en Italie, qui est cette communauté, je l'appellerai un mouvement magique, ils ne veulent pas s'appeler comme ça, mais c'est une communauté qui est née un peu à l'époque du Nouvel Âge, le fondateur est mort il y a quelques ans, et qui continue à avoir du succès. Mais justement, ça peut avoir du succès dans la mesure où c'est un groupe comparativement petit. Ils ne pensent pas de sauver le monde, mais oui, ils pensent de sauver une vallée. Alors, ils ont fait des usines modèles, des artisanats, des produits alimentaires bio, des restaurants. Et avant le COVID, surtout, ça marchait assez bien. Car on peut effectivement créer une utopie. Et là, ils ont été habiles, et surtout, c'était des gens de la bourgeoisie, ce n'était pas de pauvres gens. Ils ont été assez habiles et c'est finalement une utopie qui a réussi alors que beaucoup d'autres ont fait faillite. Donc, mais on peut bâtir des utopies pour 100 personnes, 200 personnes ou pour moi-même dans ma maison avec mon ordinateur où je fais de la méditation. Donc, je pense que l'idée de l'Age of Aquarius, qui c'était comme une transformation globale du monde qui passait dans une nouvelle époque astrologique, c'est quelque chose qui s'est maintenant réduit à la perspective au songe plus limité d'une transformation qui intéresse des petits groupes, voire des individus.
Et puis, un peu après avoir étudié donc, cette transformation du New Age, qui est vrai, il est vrai, on l'associe maintenant inévitablement aux années 60, mais vous montrez que ça vient un peu de la théosophie, de la transformation de la théosophie dans les années 20, et que ça vient de différents autres courants qui ont convergé l'expression même de l'ère du Verseau, etc. Vous faites l'étude de tout ça, mais c'est vrai qu'on l'associe un peu aux années 60, au mouvement hippie qui en quelque sorte un peu englobé, mais qui n'était pas tout à fait la même chose, etc. Et puis, juste après, vous travaillez sur ce qui a été le dernier grand best-seller, en tout cas, ou peut-être même le début d'une nouvelle époque de best-seller populaire ésotérique. Vous sortez donc un livre sur Illuminati et il Priorato di Sion, les Illuminés et le Prioré de Sion, traduit en français aussi, la réalité derrière les complots du Da Vinci Code et des anges et démons de Dan Brown. Alors, inévitablement, Dan Brown allait entrer dans la collusion de vos recherches, puisque c'est un peu le retour de toutes les théories ésotériques, etc., redevenues fiction, avec donc le nouveau millénaire. Et ça a créé une petite industrie éditoriale, parce qu'encore aujourd'hui, il y a beaucoup de successeurs de Dan Brown qui continuent. Évidemment, il y avait le livre bien meilleur de Umberto Eco, Le pendule de Foucault, qui était paru bien avant, et qui avait été aussi un best-seller, mais beaucoup plus ironique, évidemment, et beaucoup plus érudit aussi. Mais donc, vous avez écrit ce livre pour un peu, encore une fois, faire l'étude de cette sorte de mini-mythologie qui s'était créée autour du prieuré de Sion et qui est une mythologie très récente, en fait, pour le coup. Années 1950.
Oui, si je peux revenir sur le Nouvel Âge, alors vous évoquez évidemment Paul Lecour qui parlait d'Ère du Verseau déjà avant la Deuxième Guerre mondiale, mais j'y mettrai un peu du côté canadien quand même, car je dirais qu'aux États-Unis, pour toute cette terminologie, ce qui était très important, c'était le passage de Lauren Harvey au Nouveau-Mexique, où il a rencontré toute une colonie d'artistes, et justement, dont par exemple Bistram, qui venait de New York, et des disciples de Rere, qui est même passé personnellement à un moment, le grand peintre métaphysique russe. Donc, dans ce milieu-là, on a aussi commencé à parler d'un nouvel âge qui allait venir. On avait même donné des dates, comme par exemple 1946. Et donc, dans la genèse de l'idée du nouvel âge, Lauren Harris, qui a apporté à tous ces gens les idées philosophiques, quand il a dû un peu s'enfuir du Canada pour des questions légales liées à son divorce, et il allait au Nouveau-Mexique, c'était très joli, évidemment. Et il y avait plusieurs artistes à Taos qui profitaient du beau temps, du paysage exceptionnel. Et donc, c'est dans ce groupe qu'on a commencé vraiment à parler aux États-Unis du Nouvel Âge, indépendamment de Paul Lecour en France. Donc, il y a ce côté canadien qu'il faut souligner. Non, ce qui est de Dan Brown, une petite curiosité, c'est qu'il a lui-même écrit un blurb pour mon livre sur son autre roman sur la franc-maçonnerie, en disant que j'avais tout compris de son opération intellectuelle. Et donc, oui, il a écrit une lettre à l'éditeur italien en disant « Oui, en effet, je suis critique du catholicisme et admirateur de la franc-maçonnerie, donc c'est vrai ». Alors, pour moi, évidemment, je dois avouer que j'ai lu Le Code Da Vinci avec plaisir. C'est un livre qu'on a envie de finir pour voir comment. Et donc, en tant que spécialiste un peu aussi de la littérature populaire, c'est de la littérature populaire qui a réussi quand on a envie de ne pas aller dormir et de voir comment ça va se terminer, c'est une réussite. Donc, il faut, dans ce sens, admirer Dan Brown. Mais non, mon problème dans mon livre, ce n'était pas Dan Brown en tant que tel, mais ce sont les gens qui ont commencé à prendre pour argent comptant les théories de Dan Brown, c'est-à-dire, et ils sont nés plusieurs cercles, petits groupes, même dans certains mouvements religieux ou magiques, on a adopté la théorie que oui, Jésus s'était marié, la Madeleine, la Mérovingienne, ça a passé même dans la bande dessinée, Preacher, si vous vous rappelez, dans une façon très ironique, a repris ces idées de descendants physiques de Jésus. Alors, à ce moment, comme j'avais entretenu une correspondance avec Pierre Plantard.
Celui qui avait implanté probablement le faux document, non?
Oui, j'avais entretenu une correspondance avec Pierre Plantard. Il faut ici dire aussi qu'il y avait un personnage assez bizarre et très controversé, mais qui connaissait tout le monde dans le milieu de l'ésotérisme, et quand il avait envie d'écrire, il écrivait aussi des livres sérieux, c'était Robert Amadou.
Oui, des grands livres sur l'ésotérisme, oui.
Il est mort prêtre orthodoxe, d'ailleurs, marié, que j'ai bien connu, donc on s'est croisés souvent, on a fait des colloques ensemble, controversés aussi, car Robert, tout ce que faisait Robert Amadou était controversé par définition. Et donc, Robert Amadou savait tout de cette affaire, il avait connu Plantard et les autres associés, et il m'avait conté plusieurs histoires. Donc, pour moi, ça ne faisait aucun doute que toute l'histoire de la descendance mérovingienne de Jésus, c'était une invention de Plantard, qui avait créé de faux documents.
Oui, un canular énorme. Oui.
C'était donc, oui, un canular, finalement. Alors, j'admets parfaitement que ce soit de la matière pour écrire des romans, seulement, il ne faut pas la prendre au sérieux, évidemment. Donc, il n'y a aucune preuve historique. Et c'est un peu de même sur les Illuminati, c'est-à-dire, là, il y a beaucoup de fantômes qui viennent de Baruel et après Baruel, mais les Illuminati historiques, le groupe bavarois, c'est un groupe qui a un intérêt, mais qui n'a pas eu l'immense influence comme Louis Prêtre. Et la continuation des Illuminati au 19e, ça m'intéresse car ils ont croisé Aleister Crowley à un moment donné, et donc ils ont eu une influence sur des milliers, mais ce n'est pas des gens qui ont dominé le monde entier.
En fait, le coup de génie, c'est le livre Holy Blood and the Holy Grail de oui. Michael Bagent, Richard Ley et Henry Lincoln. Parce qu'en fait, c'est ça que Dan Brown pille directement. Et c'est oui. Eux qui sont vraiment, qui créent une sorte de métafiction qui présente comme une réalité, évidemment, comme une révélation. Mais en 1982, ils ont vraiment une... C'est astucieux. Quand on lit le livre, c'est très astucieux comment ils enchaînent les différents aspects. Donc ça, c'est un livre très réussi de fantasmagorie historique. Et aussi une sorte d'œuvre un peu pop, parce qu'au fond, il y a un côté très populaire dans ce type de best-seller, mais évidemment, qui a été lu par certains comme étant la vraie histoire. Et bon, c'est là où le pacte de... Puisqu'il n'y a pas de pacte de fiction... Mais si on le prend comme une fiction, c'est extrêmement divertissant parce que c'est très, très bien fait.
Ils ont fait un procès à Dan Brown qu'ils l'ont perdu à Londres car effectivement, le juge de Londres, je pense que j'ai publié quelque chose sur ça, mais ça fait plusieurs années, le juge de Londres a dit qu'on a toujours le droit de prendre une œuvre sérieuse et d'en faire un roman.
C'est ça l'ironie extrême, la non-fiction et la fiction, parce qu'en fait, ils auraient presque mieux fait de faire ça comme une fiction, là, ils auraient gagné. Mais Dan Brown, il a reconnu que c'est sa femme qui était en train de lire le livre et qui lui avait dit, écoute, ça, c'est vraiment une bonne histoire, etc. Donc, l'affiliation...
Non, un peu comme Umberto Eco, c'est-à-dire dans le cimetière de Prague. Dernier ouvrage, je dirais, il y a une bonne centaine de pages qui viennent de mes ouvrages à moi, notamment sur Taxil. Mais lui, il a dit, même en discutant avec moi en télévision, que oui, il avait pris donc, le raw material de mes livres, il avait fait un roman.
Ah, c'est excellent.
C'est que Eco savait, par exemple, de Starsil, il le savait par moi, soit par mes livres, soit par des conversations avec moi. Et aussi, il ne parle pas que Starsil, il parle mon analyse de Baruel, du livre sur le savait, il parle beaucoup de moi. Mais là, il a toujours avoué, donc je ne suis jamais fâché. Je suis fâché parfois avec des auteurs qui ont pillé mes ouvrages sans le dire, mais là, ce sont des autres histoires. Eco, lui, il a toujours reconnu ça. Donc, et je n'ai pas un problème, évidemment. Il a fait un roman et il a utilisé des informations dans des ouvrages qui n'étaient pas de romans.
Et donc, vous aviez une belle relation avec Eco. Vous êtes rencontré quand avec Eco?
Je pense que nous nous sommes rencontrés par Antoine Fèvre.
Le grand spécialiste de l'ésotérisme, oui, en France.
Fèvre, je l'ai encore vu. Voilà, le dernier voyage que j'ai fait, bon, à l'époque, j'habitais en Lituanie, mais hors de Lituanie, avant le Covid, c'était un colloque du dernier jour de février l'année passée, et à Paris, où j'ai rencontré justement Antoine Fèvre, qui est très âgé, mais qui participe encore à des colloques. Donc, c'est un grand ami à moi, et c'était lui qui m'avait fait connaître dans un déjeuner à Paris Umberto Eco, et puis je l'ai vu, oui, plusieurs fois en Italie. Je dirais qu'on avait des idées différentes, notamment sur le catholicisme. Moi, je suis catholique, lui, il était très critique de l'Église catholique, mais on avait des intérêts communs, soit dans la bande dessinée.
Oui, c'est ça qui est incroyable. Vous auriez pu vous rencontrer autour de soit Salgari, soit la bande dessinée.
Ah, dans l'ésotérisme.
Oui.
Alors, faut dire que avant que je l'ai rencontré, on avait eu des échanges assez critiques, car j'avais fait un compte rendu critique du Nom de la Rose, et il avait répondu sur l'Espresso, donc ça a été assez piqué, c'est-à-dire j'avais fait noter des erreurs historiques dans le Nom de la Rose. Il n'était pas content, mais après quoi on s'est rencontrés, donc on est devenus presque amis, on ne se voyait pas très souvent, mais on avait une bonne relation.
C'est une bonne histoire. On a une grande admiration pour Eco, et Pop en Stock est un peu, on se réclame un peu d'Umberto Eco et de ce qu'ils avaient fait dans la revue Communication avec Edgar Morin dans les années 60, où ils avaient été parmi les premiers vraiment à étudier la culture populaire comme quelque chose qui méritait sérieusement de s'y intéresser.
Oui, et donc il a eu mais malheureusement ils sont morts, il a eu des disciples à Bologne qui avaient essayé aussi d'étudier justement les fascicules populaires. Mais ça devrait se continuer car même au Québec, je pense qu'il n'y a pas beaucoup qui s'intéressent à la littérature populaire québécoise.
Il y a eu un mouvement dans les années 70 où justement il y a eu un livre qui était sorti sur X13, qui s'appelait Le phénomène qui est X13. Mais après, oui, il y a. Par contre, ce qu'on a la chance, c'est d'avoir programme où il y a, donc à l'UQAM, où on étudie la culture populaire au sein du département d'études littéraires, et qui avait été créé dans les années 70, justement, dans la foulée de ce que faisaient Eco, Barthes, Morin, etc. Mais donc, pour ça, on a la chance. Mais c'est vrai que l'étude, il y a Labopop ici qui travaille un peu sur l'histoire de la culture populaire québécoise, et nous, on s'intéresse un peu plus à l'ensemble, dont le québécois aussi. Mais c'est vraiment passionnant, tout ce parcours, Massimo. Et maintenant, quels sont vos prochains ouvrages en tête, en perspective?
C'est-à-dire, moi, comme je dis, j'ai terminé mon enseignement en Italie en 2016. Je l'ai vécu à New York, puis en Lituanie.
Vous étiez professeur de sociologie des mouvements religieux et de sociologie des religions, et aussi vous étiez à la tête donc du Centre pour l'étude des nouvelles religions, le CESNUR.
Je n'ai jamais abandonné, mais j'ai des autres personnes qui travaillent également à la bibliothèque. Je disais aussi pour des raisons personnelles de lier un divorce, un deuxième mariage avec une diplomate qui travaillait à New York, donc je suis allé à New York. Et j'y ai passé 2 ans et puis en Lituanie. Et maintenant, je suis revenu en Italie, mais je vous parle Toscane.
Ah, quelle merveille!
En Toscane. Et donc, à un moment donné, je décidais d'écrire presque exclusivement en anglais, même si encore certains de mes articles dans le quotidien Bitter Winter sur la Chine ont été sortis en édition italienne également. Mais normalement, j'écris en anglais. Donc, mes derniers ouvrages après le satanisme ont été un livre chez Oxford sur les frères plimoutistes d'Arbiste, connus aussi en France. C'est-à-dire, c'était le vrai mouvement fondamentaliste, les origines d'Arbiste fondamentalisme protestant. Donc, quelque chose de différent par rapport, évidemment, à la culture populaire qui n'aime pas du tout. Et après ce livre sur l'Église de Dieu Tout-Puissant, qui a eu des éditions dans plusieurs langues, et sorti aussi chez Oxford. Je dirais le prochain livre qui va sortir, c'est ce livre sur le lavage de cerveau, qui encore une fois n'est pas une traduction de mon livre français fait avec Decanto, mais c'est quelque chose de nouveau pour Cambridge University Press. Et maintenant, je continue de travailler, c'est une responsabilité de diriger ce quotidien sur la liberté religieuse en Chine, et maintenant en Chine ailleurs, donc tous les jours, il faut mettre en page.
Oui, c'est énorme, c'est un immense travail, courageux aussi. Et est-ce que vous pensez à un moment donné faire un travail, peut-être de rassemblement de vos articles sur la culture populaire? Ce serait vraiment passionnant.
Oui, non, je pense... Je me dis toujours qu'il y a un ou deux livres sur, notamment sur le fascicule populaire, mais qu'il faudrait faire quelque chose. Je ne sais pas si je trouverai le temps, car j'ai le quotidien qui m'occupe beaucoup. En plus, j'ai un bimensuel Journal of Chamber, qui est une publication académique sur le nouveau mouvement religieux que je dirige également. Je suis dans le comité de Nova Religio chez l'University of California Press.
Vous êtes vraiment occupé, c'est clair.
Je suis le guest editor d'un numéro spécial qui va sortir à la fin de cette année sur les nouvelles religions de Corée. Il y a beaucoup à faire. De l'autre côté, pour étudier le nouveau mouvement religieux, il n'y a pas beaucoup d'alternatives à les visiter.
Non, c'est clair. Vous faites un travail d'enquête, comme je disais. Oui, c'est clair.
Un travail de terrain qui ne peut pas être totalement substitué par Internet. Alors, nous, avec des collègues, il y a eu toute cette affaire en Corée de Shincheonji, sur laquelle j'ai été pratiquement le seul spécialiste non coréen à travailler, qui était accusé à un moment donné d'avoir une responsabilité dans les contagions de COVID en Corée. Finalement, le procès a été fait et les responsables ont été absous. Donc, on voit que c'était, comme nous le disions, beaucoup un fantôme de la secte mauvaise qui diffuse le COVID. Donc, les juges même coréens ont dit que ce n'était pas ça. Mais finalement, on a produit 3 livres blancs sur cette histoire. On a fait beaucoup d'interviews à des membres de Shincheonji, des opposants, des journalistes. Mais tout a été fait par Zoom, donc ce qui n'est pas totalement satisfaisant. Alors, ce que j'avais écrit sur Shincheonji auparavant, c'était basé sur un travail de terrain en Corée, notamment ce messier qui est devenu malgré lui fameux, leur prophète, Lee Man-hee, et j'étais encore une fois parmi les très peu de chercheurs, je l'avais interviewé 2 fois, c'est quelqu'un qui n'est pas...
Je pense qu'il va falloir que vous écriviez vos mémoires aussi, parce qu'à un moment donné, je pense que ça va être très intéressant de revenir sur toutes ces expériences personnelles derrière les livres, parce qu'on sent que derrière les livres, il y a tout ce travail humain de rencontres, de discussions.
Pour faire du travail sur le mouvement religieux, d'un côté, le COVID permet de rester à la maison et d'écrire, mais de l'autre côté, pour comprendre comment comme vous le disiez, c'est quelque chose de très dynamique qui change de façon continue. Il faut aller sur le terrain. Donc, on peut étudier les religions anciennes dans une bibliothèque, mais on ne peut pas étudier les nouveaux mouvements religieux dans les bibliothèques. Il y a aussi des choses qui ne se trouvent pas dans leurs livres. Il faut faire de l'observation participante, des interviews, de partage de leur vie quotidienne, sinon on comprendra très peu.
Oui, c'est le côté aventurier de votre trajectoire, non? C'est le côté Robert Langdon, pour reprendre le nom du personnage de Da Vinci Code. Vous allez à la rencontre donc de toutes ces figures. Et je pense qu'effectivement, si vous avez le temps à un moment donné, des mémoires seraient très intéressantes de revenir sur les rencontres avec des hommes exceptionnels, comme avait publié Gurdjieff donc son livre. Mais je pense que vous avez eu des rencontres sûrement extrêmement intéressantes, en espérant pouvoir visiter un jour la bibliothèque extraordinaire de ces fascicules, qui se trouve où physiquement?
À Torino, mais c'est une partie de la grande bibliothèque sur le nouveau mouvement religieux. C'est la même bibliothèque, en effet. Là aussi, peut-être à l'avenir, il faudra le diviser, mais pour l'instant, c'est la même bibliothèque.
Bon, à Turin, donc, rendez-vous à tous les amateurs de culture populaire du 19e, 20e. Les fascicules ont continué au 20e siècle, ont eu une grande vitalité. Nick Carter et toutes les autres grandes figures qui ont préfiguré les super-héros et les héros plus connus du 20e siècle et qu'on a un peu oublié malheureusement. Donc, merci encore massivement. On continue à suivre vos publications.
Merci d'avoir été avec nous jusqu'à la fin de cet épisode. Les balados OIC sont disponibles sur toutes les plateformes de balado-diffusion et sur le site de l'Observatoire de l'imaginaire contemporain à l'adresse oic.ucam.ca.